Elles sont faites de moi un homme, yeah. Les douleurs et les peines.
La Fouine à Lubumbashi. Un concert exceptionnel ce dimanche 18 mai au Grand Caravia Hotel avec la star du rap français. L'ouverture de porte se fera à partir de 16h en première partie. Venez retrouver vos artistes M. Joey, Ted Concept et R.J. Caniera. Un rendez-vous inédit qui sera diffusé très prochainement sur Radio Okapi. Louchois et Louchoises, ne manquez pas ce spectacle haut en couleur que vous réserve la Fouine ce dimanche au Grand Caravia Hotel à Lubumbashi.
La communication est la clé des rapports humains, respectueux et fructueux. Davantage encore entre parents et enfants, affirment les experts. Cependant, le dialogue au sein de la famille a tendance à disparaître. Les parents n'ont plus assez de temps d'échanger avec leurs enfants, ni avec leurs conjoints. Papa est trop occupé ou maman est trop occupée. On n'a plus assez de temps de parler, d'échanger longuement sur certaines questions. Alors, quelles peuvent être les conséquences du manque de dialogue et quelle est l'importance du dialogue dans la famille. Isidore Bamanaï, vous êtes éducateur à la vie, vous êtes en Boujimaï. Bonjour.
Oui, bonjour Jody et bon retour sur les antennes de la Radio Okapi. Bonjour aussi aux auditeurs de la Radio Okapi.
Voilà, c'est merci et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, Monsieur Isidore Bamanaï. Alors dites-nous, quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui le dialogue en famille tend à disparaître, où les parents ne parlent plus assez avec leurs enfants et ou entre eux. Et quelles peuvent être les raisons?
Oui, on constate cette situation malheureuse. Il y a plusieurs causes qui sont à la base de cette situation de manque de dialogue dans la famille. Je vais commencer par la personnalité elle-même, la personnalité de chacun des membres de la famille, surtout de chaque conjoint. Il y a des personnalités qui communiquent moins, et qui sont renfermées sur soi-même, qui au lieu de dire ce qu'il pense, il mijote là-dedans pendant un bon bout de temps. Donc, il s'est tenu à cette cause-là, mais il y a aussi la différence que nous avons dans les sexes. Au niveau du cerveau, le cerveau de la femme, qui a l'hémisphère droit qui est plus développé que l'hémisphère gauche, si dans l'aptitude à pouvoir communiquer chaque jour, si on n'en tient pas compte, cela peut arriver qu'à un certain moment, les dialogues soient rompus. Mais il y a aussi la façon dont nous parlons à l'autre. Quand tout le temps, au lieu de répondre gentiment, vous posez une question, on vous regarde, parfois vous ne recevez pas la réponse que vous attendez, ou quand vous vous exprimez, vous êtes mal compris, ça crée des réactions intempestives dans le couple. À un certain moment, on va commencer à hésiter, on va se dire, bon, je ne sais pas par quel pied danser, je ne sais pas quand je vais m'adresser à lui, quelle sera sa réaction ou quel comportement ça va provoquer chez lui. Je crois qu'en ce moment-là, cette manière de recevoir l'autre, cette manière d'interpréter les idées de l'autre, d'aller au-delà de ce que l'autre voulait dire, peut à un certain moment créer un blocage de communication. Il y a aussi l'éducation que nous avons reçue dans nos familles respectives. Si quelqu'un sort d'une famille où il n'a pas vu les parents communiquer entre eux, où les parents n'ont pas beaucoup communiqué avec les enfants, cette situation va peut-être créer chez cette personne une capacité à se renfermer sur soi-même. En ce moment-là, communiquer pour cette personne, ça devient peut-être un peu difficile. Mais aussi, dans notre conception, dans notre tradition, il y a des gens qui disent aux hommes que vous n'avez pas tout le temps à communiquer à votre femme, qu'est-ce que vous pouvez vous dire entre vous deux, et si on trouve que chez tel, s'ils sont assis le soir, quelque part là, ils sont en train de dialoguer, bon, il y a les voisins, il y a les amis qui peuvent interférer là-dedans pour dire, mais celui-là, il est toujours collé à sa femme, qu'est-ce qu'ils ont à se raconter tout le temps? Tout cela peut arriver qu'à un certain moment, même ceux qui avaient commencé à communiquer puissent trouver un blocage quelque part. Il y a aussi l'influence de la religion. Il y a des religions où on traite la femme comme un être de seconde zone. Comme ils aiment dire, c'est une aide, donc je peux recourir à elle que quand j'ai besoin de l'aide. Et si parfois on n'a pas trouvé de l'aide auprès de la femme, eh bien, on la plaque dans un coin et puis on dit bon, ton travail c'est s'occuper de la maison, c'est me préparer à manger et n'a rien de bon à me dire. Comme ça, moi j'arrange mes choses moi-même et ce qu'il faut à elle, c'est juste lui donner l'argent pour subvenir aux besoins personnels et même aux besoins de la famille. Donc il y a des religions où parfois on évoque les cas de Dalila avec Samson. Et quand Samson a communiqué avec Dalila, d'ailleurs Dalila n'était même pas la femme de Samson, c'était une compagne. Et on évoque tout ce genre de choses. Il y a même des passages où on dit il ne faut jamais vous confier à votre femme. Dans notre culture, on le dit aussi, si vous vous confiez à votre femme, bon, le lendemain, ce sont les voisins qui ont appris, ce sont les membres de sa famille qui ont appris. Tout cela sont des situations qu'il faut qu'à un certain moment, les dialogues se trouvent bloqués au niveau de la famille.
Voilà, il y a plusieurs
mais
causes.
Aussi,
oui.
Par exemple, oui. Comme vous l'avez dit dans l'introduction, on est trop occupé, on rentre fatigué, et tout ce qui reste à faire, c'est grignoter quelque chose, prendre un bain, et puis c'est bon pour les lits. Je crois que ce sont aussi des situations qui bloquent.
Oui, mais pour certains, il y a également la télévision, l'Internet qui ont pris la place du dialogue. Parce qu'en rentrant au soir, lorsque toute la famille est réunie au salon, bon, on passe le temps à revoir les séries, les programmes télévisés, et on n'a plus assez de temps de dialoguer.
Oui, je crois que c'est réel aussi pour des grands centres, ce que nous appelons ville au Congo.
Oui.
Des grands centres où on peut avoir du courant, où dans la famille on peut trouver ce genre d'appareils. À un certain moment, ça peut être un moment où on est tout le temps concentré sur la télévision, sur les laptops, sur les activités de service qu'on a transportées jusque dans la maison. Et à ce moment-là, on n'a pas beaucoup de temps pour regarder les autres, pour leur dire comment ça va, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée, quels sont les problèmes qu'on a connus. Et oui, je crois que c'est aussi une des causes qui bloque le dialogue.
Nous avons déjà en ligne Aimé, elle nous appelle depuis Siro, en province orientale. Aimé, bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'ai deux petites questions à poser à l'invité. La première est de savoir, il y a des parents, à chaque fois que vous les voyez, très méchants, donc les enfants ont peur même d'aborder les parents. J'aimerais peut savoir de quels parents, comment la foi peut avoir le courage de l'aborder. La deuxième question est de savoir, souvent, les parents qui ont des boulots, ils se réveillent très tôt matin, ils se rendent au boulot et reviennent tard. Des fois, la foi peut passer même 3 ou 4 jours, il ne voit pas son parent ou bien son papa. Comment le papa peut avoir le temps facilement de dialoguer avec son enfant? Il y a des cas comme ça. Merci.
Bien, merci Aimé. Nous allons également accueillir Aimé Elodie hein, qui nous appelle de Guémena dans la province de l'Équateur.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Pourquoi est-il important de dialoguer en famille? Elodie, vous êtes à Guémena, bonjour.
Bonjour Jody, et puis bonjour aussi à Papa Isidore à partir de l'Ouchimaï.
Moi,
vraiment, ce n'est pas vraiment une question. Je voulais plutôt encourager à partir de mon exemple.
Oui.
À partir de mon exemple et de la façon dont mes parents m'ont élevé. Je veux dire que c'est grâce à la communication que j'ai pu connaître beaucoup de choses. Étant une fille, ma maman me disait presque de tout. Et à chaque instant, je savais toutes les métamorphoses qui pouvaient subir dans mon corps, tout ce qui pourrait m'attendre. Je savais qu'à un tel âge, je pouvais être attirée par l'autre sexe. Les premières menstruations, tout ça là, je savais. Parce que la communication dans la famille, au fait, si les parents n'ont pas le temps de prendre, de causer avec les enfants, ça permet aux enfants d'aller apprendre beaucoup de choses ailleurs. Et quand ils vont découvrir beaucoup de choses à l'extérieur de la maison, ils vont commencer à se planter de confiance en dehors de la maison à d'autres personnes disant que à la maison, on leur dit rien, ils n'ont pas confiance à ses parents. Moi-même, mon père, parce que ma mère est décédée, je ne crains rien de lui poser des problèmes, même de m'intimider. Tout simplement parce que nous avons grandi en causant ensemble. C'est pourquoi je voulais aussi conseiller à d'autres parents de faire autant de causer ainsi avec leurs enfants. Si c'est un père, être en contact avec son garçon, et si c'est une mère avec une fille.
Voilà, merci.
C'est ça, mon témoin.
Oui, et merci Elodie pour cette contribution. Mais dites-nous, Elodie, actuellement avec vos enfants, vous avez le temps de dialoguer souvent avec eux?
Oui, je dialogue avec mes enfants, mon garçon a 5 ans, on cause, ma fille a 3 ans, je leur parle selon leur âge. Et puis je suis chrétienne, je suis aussi témoin de Jéhovah, nous avons des livres pour causer avec des enfants selon les nouveaux d'âge. Alors je cause avec mes enfants tout le temps, nous dialoguons vraiment ensemble, j'essaie d'imiter la façon dont mes parents m'ont élevé. Moi aussi, j'essaie d'élever mes enfants comme ça.
Merci Elodie de Guémena, merci, bonne journée. Et Papa Isidore, vous avez la parole.
Oui, merci, bonjour à Aimé, à Isiro, bonjour à Elodie, à Guémena. Si les parents sont méchants, peut-être particulièrement les papas, comment les aborder? La réaction naturelle est que peut-être dès que papa arrive, on dit tiens, Saddam Hussein est arrivé, et chacun se tient dans son coin tranquille. Mais moi je crois qu'on peut seulement réunir son courage et un jour s'approcher. Quand papa est arrivé, qu'il s'est reposé, peut-être qu'il a mangé, qu'on constate qu'il écoute la radio avec peut-être un journal en main, il est derrière la maison en dessous des manguiers, on peut s'approcher tout bonnement et dire « Papa, j'avais une question à te poser, est-ce que tu permets ?» Et je perturbe un peu ton calme, là tu es en train de lire ton journal, et je m'excuse, mais je tiens à te dire ce que j'ai sur le cœur. Je crois que si on réunit ce courage-là et qu'on s'approche, et qu'on aborde papa avec des mots qui peuvent susciter en lui l'intérêt, qui peuvent susciter en lui l'envie de pouvoir écouter et même l'envie de pouvoir répondre à la question. Je crois que petit à petit, on peut arracher quelques mots de la bouche de ce papa qui paraît méchant. Parfois, c'est seulement une impression que l'on a d'un papa qui peut-être ne s'exprime pas beaucoup, mais il faut peut-être aller le provoquer. Pas de mauvaises manières, mais il faut aller le provoquer avec gentillesse. Je crois que petit à petit, cet homme va s'habituer à dire, tiens, quand j'arrive, mes enfants ont des problèmes à me soumettre, il faut alors être disposé à les écouter et peut-être à donner de petites réponses. Je crois que de cette manière-là, on peut s'approcher. Mais si les parents sont accaparés par le travail, ils n'ont pas le temps, ils rentrent fatigués, je crois que dans leur horaire, ils doivent quand même avoir un jour où ils sont off. Ils ne vont pas au boulot. Profitez de ce jour-là pour pouvoir entrer en communication avec les parents. Si ce sont des parents qu'on ne voit pas pendant 2-3 jours, mais arrangez-vous un jour, réveillez-vous à 5 heures et vous vous dites aujourd'hui, je me réveille à 5 heures, je m'arrange. Dès qu'ils sortent de leur chambre, bonjour papa, bonjour maman, ça fait 3 jours que je ne vous ai pas vu. J'avais seulement envie de vous saluer et de vous voir. Je crois que de cette manière-là, ils vont se rendre compte, tiens, nous manquons à nos enfants. Et ils vont s'arranger pour trouver un temps pour s'approcher des enfants et pouvoir communiquer avec eux. Elodie a donné son exemple, c'est un exemple patent. Bravo à sa mère, malheureusement, elle est déjà au-delà. Mais aussi qu'elle aussi, par l'influence de l'éducation qu'elle a reçue auprès de ses parents, elle fait la même chose avec ses enfants. Bravo vraiment, il faut continuer. Parce que quand on communique, il y a moyen de découvrir autant de choses de la vie. Et quand on découvre autant de choses de la vie, des choses importantes, des choses liées à sa vie, même à sa vie intime, il y a moyen d'évoluer correctement et normalement dans la société et devenir un adulte utile à la société.
Alors dites-nous Isidore Bamanaï, lorsqu'il n'y a pas, le dialogue est rompu en famille, les parents n'ont pas le temps de parler avec leurs enfants ou entre eux, qu'est-ce que cela peut entraîner comme conséquence?
Oh, je dis, les conséquences sont fâcheuses. D'abord, c'est on ne peut pas arriver à se connaître. Et quand on ne peut pas arriver à se connaître, parce que c'est à travers les dialogues qu'on s'exprime, on présente ses idées, on voit un peu les besoins que l'on a. S'il n'y a pas de dialogue, je crois qu'on ne peut pas se connaître. Et quand on ne se connaît pas, il est difficile de vivre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et quand on ne se connaît pas aussi, on risque de rentrer dans les interprétations. On est dans les humeurs, et quand on est dans les humeurs, il y a des idées qui peuvent passer par la tête, qui ne sont pas exactes, et qu'on va prendre pour des idées exactes, on va cataloguer quelqu'un, alors ce qui n'est pas réellement. Je crois qu'en ce moment-là, ça devient difficile. Mais aussi, les liens affectifs ne sont pas renforcés. Et quand les liens affectifs ne sont pas renforcés, c'est la froideur qui entre. Et quand la froideur entre, ce sont l'un et l'autre qui vivent éloignés alors qu'ils sont ensemble dans une maison. On ne connaît pas les problèmes des enfants. les enfants, est-ce qu'ils ont bien étudié? Est-ce qu'ils ont des problèmes au niveau de l'école? Est-ce qu'ils se sont chamaillés sur la route? Qu'est-ce qu'on leur a raconté sur la route? En ce moment-là, je crois que ça devient un moment où on n'est pas unis dans la famille et on n'est pas épanoui. Et même, on n'aura pas la joie de rentrer tout de suite chez soi. C'est ce qui fait que certains enfants, après l'école, ils trouvent bon de traîner sur la route avec les amis. On va jouer au foot, on va si on a un peu d'argent, on entre dans un ciné vidéo. Parce qu'ils se disent, mais chez nous, là, le climat n'est pas très bon. Quand on arrive, papa est dans son coin, maman est dans son coin. Et nous, on a des problèmes sur lesquels on ne sait pas à qui se confier. Et je crois que les conséquences sont énormes si il n'y a pas de dialogue dans la famille.
Voilà, il y a certains parents qui disent, certains papas par exemple, j'évite de rentrer très tôt à la maison parce qu'il y a du bruit, ma femme parle trop, elle risque de me mettre mal à l'aise, alors il préfère aller passer le temps dans un bistrot avec des amis en train de boire et il revient le soir très tard seulement pour dormir, là les enfants sont déjà au lit.
Ouais, je crois que c'est une attitude coupable. Si on a quelque chose contre sa femme dans sa façon de communiquer, je crois qu'il est plus utile de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer à l'autre les raisons qui font que chaque fois qu'on a terminé le boulot, on n'est pas content de rentrer chez soi. Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de changer? Mais aussi parfois, on peut considérer comme tapage, comme du bruit, seulement l'envie de s'exprimer, seulement l'envie peut-être d'exposer les besoins que l'on a. Il y a des hommes qui fuient les besoins qu'on présente, soit par l'épouse, soit par les enfants.
Par les enfants.
Peut-être, oui, peut-être ils n'ont pas assez de moyens, ou peut-être ils ont des moyens, mais qu'ils veulent utiliser à autre chose qu'aux besoins de la famille. Dans ce moment-là, dès qu'on s'approche pour présenter ses besoins, ça devient un dérangement pour lui, ça devient un motif pour dire, ah, c'est toujours comme ça, quand on arrive ici, oh, c'est papa ceci, et c'est papa cela. Mais écoutez, si ce n'est pas à vous qu'on peut s'adresser, on va s'adresser à qui? Je crois que se réfugier dans les bistrots pour boire et revenir à la maison fatigué, c'est peut-être creuser petit à petit sa propre tombe dans sa famille, c'est peut-être donner une mauvaise image à ses propres enfants et même à sa propre épouse. C'est ainsi qu'on va vous coller des noms que vous ne connaissez pas. C'est ainsi que les liens affectifs entre vous et les enfants ne sont pas renforcés. C'est ainsi que l'épouse est seule avec les enfants et les enfants vont être plus attachés à leur mère qu'à leur père parce que le père est souvent absent. Il n'y a que son boulot et le bistrot et il rentre. Peut-être il a pris un verre de trop, il est un peu saoul, il a mangé ou il n'a pas mangé, il jette son sac et puis il est bon pour le lit et il commence à ronfler. Je crois qu'en ce moment-là, on est absent. Et dans l'espace physique, mais aussi on est absent dans le cœur des membres de la famille. Et si on est absent dans le cœur des membres de la famille, c'est-à-dire vous n'existez pas, on ne va pas tenir compte de tout ce que vous avez, que vous pouvez apporter aux autres, c'est-à-dire à votre épouse, à vos enfants, pour que la vie soit meilleure.
Voilà.
Se comporter comme ça est coupable. Il faudrait plutôt affronter la situation avec courage, avec diplomatie, de telle manière que l'on puisse changer et évoluer.
Bien, quelle est l'importance du dialogue au sein de la famille? Daniel, vous êtes à Kananga. Laetitia nous appelle de Kinshasa. Daniel, bonjour. Daniel, bonjour. Oui, Daniel, on vous écoute.
Oui, moi, pratiquement, j'ai un grand frère depuis qu'il s'est épousé à sa femme. C'est difficile de trouver mon grand frère l'a communiqué avec sa femme. Tel que l'été a bien souligné qu'ici, chez nous au Kassai, nous avons la culture de voir un peu quelqu'un à côté des femmes. Les voisins commencent déjà à murmurer comment ce monsieur est toujours attaché à sa femme. Bon, c'est déjà un problème qui doit être, qui est vraiment dans notre mentalité.
Vous dites Daniel, vous dites que votre grand frère, il ne parle pas souvent avec sa femme. Quand il revient le soir, alors qu'est-ce qu'il fait?
Bon, il est travailleur, mais il communique difficilement avec sa femme. Il est toujours triste. C'est comme si il a des problèmes. Mais moi-même, je me pose des questions. C'est sa femme. Comment il ne doit pas toujours communiquer avec sa femme? Et ses enfants, c'est difficile puisque c'est un travailleur. Il arrive des fois les soirs et directement il s'occupe de d'autres choses. Il n'a pas le temps de dialoguer avec ses enfants. Et voilà, c'est un problème. Et il y a des fois, il y a un autre exemple que je prends. Il y a un monsieur qui a toujours transacté ailleurs. Il vient, il fait la marchandise, il part ailleurs, il vient, il engorge sa femme, il la rentre, la femme reste remettre au monde, l'enfant grandit comme ça sans voir son papa. Et je ne sais pas, les telles familles, les enfants peuvent grandir comment, avec quelle éducation, et comment ils peuvent connaître leurs propres parents, et les parents viennent, quelques temps après, ils rentrent encore. Voilà, il n'y a pas toujours une communication suffisante. Alors, j'aimerais poser la question à l'invité, à cause des problèmes comme ça. Alors, quelle solution il peut aussi donner, quelle suggestion, quel conseil il peut donner à des gens pareils, enfin vraiment de se rétablir conformément.
D'accord, merci. Laetitia est à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, au fait, moi j'ai quelque chose par rapport au papa. Je trouve que les papas sont égoïstes et méchants. Bon, par rapport aux mêmes erreurs qu'ils ont causées, s'il arrive que
Laetitia,
les enfants commettent...
Laetitia, d'abord un instant, vous êtes à côté de la radio, alors ça produit un effet Larsen à l'antenne. Je vais vous demander de fermer votre radio. Et vous allez suivre à partir de votre téléphone.
Oui, c'est... d'accord.
D'accord, allez-y maintenant.
Oui, au fait, moi je déplore quelque chose par rapport au papa. Certaines erreurs qu'ils ont eux-mêmes commises, donc ils n'arrivent pas à comprendre leurs enfants s'il arrivait que les enfants... commettre les mêmes erreurs.
Un exemple.
Alors,
un exemple,
un papa, par exemple, qui, pendant sa jeunesse, engrossait des filles, il a eu des enfants par-ci, par-là, et s'il arrivait qu'on engrosse sa fille, donc ça devient vraiment un problème, donc il n'accepte pas, il ne comprend pas, il est méchant, donc c'est ce que je trouve, donc, l'égoïsme, quoi.
Voilà, Laetitia nous dit que certains papas sont égoïstes. Lorsque la fille tombe enceinte, il ne parle pas à l'enfant, donc rien, il devient indifférent, il est égoïste. Voilà. Merci d'avoir appelé Laetitia. Isidore Bomanaï.
Oui, merci à Daniel à Kananga qui nous donne l'exemple de son grand frère. Merci à Laetitia qui dit que les papas sont égoïstes et méchants. Je me sens un peu vexé parce que moi aussi je suis papa. Bon, s'il faut revenir à Daniel, je crois que son frère, il a dit là-dedans quelque chose qui attire mon attention. Il dit que quand il revient, il est toujours triste. Je crois qu'il faut peut-être fouiller dans sa personnalité. Pourquoi est-ce qu'il est toujours triste? Est-ce que ce n'est pas un mélancolique? Parce que les mélancoliques, ce sont des gens qui, pour un petit rien, ils se renferment sur lui-même. Il est en train de méditer, il analyse les situations froidement, il va dans les détails. Les détails les plus profonds, est-ce que ce n'est pas un mélancolique, son grand frère là? Si c'est vraiment un mélancolique, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? C'est l'accepter tel qu'il est, étudier des situations qui peuvent éloigner de lui cette tristesse, créer des moments de joie où il peut à un certain moment exploser et sortir de lui-même, et de cette manière-là, on lui place des mots qui peuvent petit à petit provoquer en lui l'enthousiasme de pouvoir communiquer. Mais s'il y a les voisins et les amis, je crois que quand on se marie, on devra quitter. Et quand on dit quitter, c'est quitter aussi les voisins et les amis. On ne les abandonne pas, mais on quitte. Et s'il se moque de quelqu'un parce qu'il est assis à côté de sa femme, ça les regarde. Et si nous tenons compte de ces candidats, c'est ça qui nous tue personnellement. On ne prend pas le courage de faire ce qu'on devra faire parce que on craint les candidats, on craint les amis, on craint les voisins. Et en ce moment-là, la situation dans sa famille devient froide. Et quand la situation est froide, on n'est pas heureux de se trouver dans la famille. Soit pour lui-même, soit pour la femme qu'il est allé épouser. Alors que quand on est ensemble, c'est pour passer de bons moments, c'est pour créer des situations d'harmonie qui peuvent faire qu'on se dise se marier, c'est une bonne chose. Donc, il faut fouiller dans sa personnalité, parce que vous me demandez des solutions. Il faut fouiller dans sa personnalité. Ceux qui sont absents tout le temps, le moment qu'il est venu, il faut que les autres membres de la famille prennent le courage de lui dire, écoutez, vous êtes trop absent de nous, alors que nous avons besoin de votre présence physique. La présence physique, le contact physique avec les enfants ou avec son conjoint, peut améliorer ou résoudre beaucoup de questions. C'est pas seulement envoyer l'argent, c'est pas seulement téléphoner. On a besoin de la présence physique. Les enfants ont besoin que leur père les touche. Quand on entre en contact physiquement avec les enfants, on leur transmet déjà la force spirituelle que l'on a, et les enfants sont conditionnés par cette présence physique. Donc il faudra le lui dire, peut-être c'est par ignorance, peut-être parce qu'on pense qu'il faut toujours chercher l'argent, et toujours l'argent, mais derrière soi-même, qu'est-ce qu'on est en train de construire? Donc il faut fouiller dans la personnalité du grand frère de Daniel, et les voisins, laissez-les tomber. Ils disent n'importe quoi, ça les regarde. Du moment que moi, je sais que ce que je fais, c'est pour le bien de ma femme et de mes enfants,
oui,
je ne vois pas pourquoi je dois m'empêcher de le faire, parce que les voisins vont dire ceci ou cela. Je ne peux pas m'empêcher de le faire. Une absence prolongée, eh bien, efface l'image de quelqu'un dans les cœurs et dans les esprits des membres de la famille.
Mais Isidore Bamanay, pour une absence, oui, prolongée, on peut toujours continuer à communiquer par téléphone.
Oui, on peut communiquer par téléphone, on peut communiquer par Internet, mais ce n'est pas suffisant, il faut la présence physique. Parce que vous savez, parfois au téléphone, la voix de quelqu'un, on ne la reconnaît pas comme telle. Hein? Mais quand on est là sur place, et la voix, et les gestes, et la manière de regarder, et le fait qu'on a caressé la tête de sa femme, et le fait qu'on a caressé un enfant qui revient de l'école, je crois que c'est différent que quand on appelle au téléphone. Donc on peut appeler au téléphone, on peut être absent, mais de temps en temps, il faut revenir dans la famille pour créer la chaleur humaine. Le contact humain est très important pour créer cette chaleur qui peut faire que les liens se renforcent, qui peut faire qu'on se comprend mieux, qui peut faire que les enfants adhèrent à ce que les parents disent parce qu'ils voient les parents eux-mêmes vivre dans l'harmonie au niveau de la famille.
D'accord. Alors, avant de répondre à Laetitia, nous allons accueillir Guédon Mwamba de Kolwezi. Bonjour Guédon.
Bonjour Daniel, bonjour l'invité Didour.
On vous écoute Guédon.
Merci. J'ai une petite question à poser à notre invité.
Mmh.
L'invité vient de nous dire tout à l'heure que celui qui s'occupe des enfants, c'est beaucoup plus c'est la maman. Alors moi, j'aimerais savoir, ça arrive dans un couple, si la maman par exemple est incorrigible, c'est-à-dire pour comprendre son mari, tout ce qu'il dit, peut-être trop de querelles, tout ça, dans la famille. Les enfants qu'on aura, si bien sûr la maman s'occupe de tout ça tout le temps, le papa se passe tout le temps au boulot, alors les enfants, quelle éducation auront si la maman affiche de tels comportements? Voilà ce que je voulais se poser à notre invité. Merci.
Bien, merci. Isidore Bamanay.
Oui, merci Laetitia. Il dit que les papas sont égoïstes et méchants. Peut-être qu'ils ont commis des erreurs dans leur propre vie. Ils ne souhaiteraient pas que leurs enfants commettent les mêmes erreurs. Et si les parents ont cette attitude, je crois qu'elle est positive. Si moi je me suis trompé dans ma vie, je ne voudrais pas voir mes enfants se tromper aussi. C'est ainsi que j'essaye de renforcer. Je renforce les mesures, je renforce les principes. Peut-être que quand les parents renforcent les principes, en ce moment-là, les enfants disent « Oh, mais mon père est méchant, mon père est égoïste. » Je crois, Laetitia, il ne faut pas exagérer dans la vie. Aucun parent ne peut applaudir sa fille si la fille est allée dans les vagabondages sexuels et que de suite de ce rapport sexuel, il y a une grossesse. Aucun parent au monde ne peut applaudir. Bon, peut-être en Europe où les gens regardent autrement la vie, mais chez nous, ici au Congo et en Afrique, je crois que chaque père serait heureux que sa fille soit épousée dans la voie normale. C'est ainsi que s'il dit, je ne dois pas voir des garçons venir ici, c'est parce qu'il sait que quand lui est allé vers une fille, il y a eu des rapports sexuels, et quand il y a eu rapports sexuels, il y a eu grossesse et que la situation était difficile à gérer. Donc, je crois, Laetitia, il faut peut-être voir autrement les points de vue des papas, leur interdiction pour l'une ou l'autre chose. Même s'ils font référence à leur propre expérience, c'est toujours positif pour un enfant.
Alors,
ça
est-ce
ne vient
que c'est
pas de la méchanceté,
oui, mais est-ce
ça
que
ne vient pas de l'égoïsme.
Voilà, est-ce
mais
que
aussi, je suis d'accord que les parents ne doivent pas exagérer.
Oui.
Les parents devront un peu comprendre leurs enfants, pourquoi ils agissent comme ça, qu'est-ce qu'ils peuvent leur faire pour mettre des garde-fous afin que la situation ne puisse pas se garder.
Oui, Isidore Mamalaï, est-ce que c'est une raison pour rompre les dialogues avec l'enfant qui s'est mal comporté?
Non, je crois que ce n'est pas une raison pour rompre le dialogue. Le dialogue doit être maintenu. Parce qu'un enfant qui s'est trompé, le dialogue peut l'aider à se rendre compte qu'il s'est trompé. Et le dialogue peut l'aider à prendre une nouvelle orientation, à décider que désormais, j'ai commis une erreur, mes parents n'ont pas été contents. Je les ai énervés. Je les ai blessés dans leur amour propre. Je dois accepter que j'ai commis une erreur. Et désormais, je demande pardon à mes parents. Et désormais, je dis, voilà, désormais, papa, je te promets, cette situation ne reviendra plus. Et en ce moment-là, je crois que le dialogue doit continuer. Mais si le père se retranche dans son coin, il dit, bon, comme il a agi comme ça, c'est fini, moi je ne lui adresse plus la parole, je crois que c'est une attitude coupable, c'est une attitude qui n'arrange pas les choses, au contraire. Après un temps, on peut être déçu, on peut rentrer dans tous les états. Après un temps, il faut se ressaisir et dire, bon, l'enfant a déjà commis une erreur. Chez nous, ici, on dit, moi, nous, mon chien, zubukame, ne va moins l'homme. Et donc, on ne doit pas enfermer l'enfant dans la maison où il a mis le feu. Et donc, il faut récupérer la situation et voir l'avenir de cet enfant, que l'enfant reconnaisse son erreur de telle manière qu'il puisse se corriger.
D'accord. Et Guédon de Colésie qui parle de querelles, la femme se querelle souvent, c'est elle qui s'occupe des enfants, qui parle avec les enfants souvent, mais beaucoup de querelles avec son mari. Alors, ne risque-t-elle pas de transmettre des mauvaises choses aux enfants?
Oui, tout à fait. Mais Guédon, je commence par dire que je n'ai pas dit que c'est la maman seule qui doit s'occuper des enfants. J'ai dit, si le père est toujours absent, donc la situation réelle est que c'est la maman qui est prête, qui est avec ses enfants tout le temps, et en ce moment-là, les liens affectifs avec les papas sont diminués. Ce n'est pas une situation favorable. Les deux doivent s'occuper de leurs enfants. Les deux doivent communiquer avec les enfants. Ainsi, l'enfant va se dire, tiens, je suis en présence de mes parents qui vivent en communion, qui vivent en harmonie, je ne sais pas m'échapper. Parce que l'enfant peut tromper un parent, en disant, bon, l'autre ne va pas être au courant. Ce sont les enfants qui constatent qu'entre eux deux, le courant ne passe pas, ils ne communiquent pas. En ce moment-là, les enfants vont les opposer, ils vont tromper l'un envers l'autre. Donc, mais si la mère, peut-être à cause de la charge qu'elle a à la maison, entre en querelle avec son mari, elle offre à ses enfants un mauvais exemple. Elle tue, elle empoisonne le climat de la famille. Et quand les enfants constatent que notre mère a trop de querelles avec notre père, les enfants risquent d'haïr leur mère et peut-être de commencer à appuyer leur père en ce moment-là. Ça devient quelle image qu'on a donnée aux enfants. Mais si on a à se quereller, que ça soit loin des enfants. Mmh. Et qu'on s'enferme dans sa chambre et qu'on se dise tout ce qu'on peut se dire. Ou qu'on s'éloigne des enfants et qu'on se dise tout ce qu'on peut se dire alors que les enfants ne se rendent pas compte qu'entre les deux là, il y a quelque chose qui chauffe. Donc, voilà. Il faut vraiment éviter que ce qu'on a à se reprocher, qu'on le fasse en présence des enfants. Dans ce cas-là, les enfants vont prendre position pour l'un ou pour l'autre et la famille vit vraiment séparée.
Voilà, quelle est l'importance du dialogue au sein de la famille? Isidore Bamanaï, éducateur à la vie et notre invité. On va terminer avec Oudon qui nous appelle des Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Jedi.
On vous écoute, Oudon.
Bon, moi aussi, j'ai un problème malgré que j'ai pris l'émission en cours. Bon, j'ai un enfant que j'avais mis au monde, j'ai aussi 38 ans, l'enfant a aussi 18 ans. Bon, je l'avais mis au monde à 21 ans. Mais il y a eu qu'on s'est séparé avec sa mère, l'enfant, comme il était encore trop petit, il était beaucoup attaché à sa mère. Là où il est resté avec sa mère, la mère l'a beaucoup intoxiqué, l'a beaucoup raconté des mal, même à tort et à raison.
Et l'enfant ne vous appelle
Mais,
pas
là, Pardon?
L'enfant ne vous appelle pas, vous ne dialoguez pas.
Bon, maintenant j'ai récupéré l'enfant parce que sa mère n'a plus maintenant de possibilités. L'enfant est avec moi ici.
Oui.
Maintenant, je vois maintenant l'enfant commence à me compliquer la vie. Je vois comme si l'enfant a incarné l'esprit de sa mère à lui. Donc je vois comme si je suis en train de me combattre avec sa mère. Tout ce que sa mère me faisait, c'est ce que l'enfant maintenant me fait. Je voulais demander à notre esprit de me donner aussi. quelques conseils. Parce que moi, pour moi, je voulais assez que je le fasse encore rentrer, qu'il rentre auprès de sa mère. C'est pour cela que j'ai cherché aussi à intervenir à cette émission pour avoir des réponses.
Oui, Odon, est-ce que vous avez le temps de parler avec votre enfant chaque jour, d'échanger, de connaître ses besoins, ses préoccupations?
Oui, j'ai cherché à causer avec lui. Je lui ai prodigué beaucoup de conseils. Ça n'a pas tenu. J'ai appelé même mon grand frère. Il a tout fait voir comment on a divorcé avec sa mère. Bon, l'enfant dit à ma mère, m'est trompé, mais par après, je vois, il répète la même bêtise, là.
Voilà. Ok, d'accord. Isidore Bamanaï, voilà, il y a un problème au don avec son enfant, de 18 ans, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Aïe, Odon, merci beaucoup pour votre cas que vous exposez devant les auditeurs de la radio Capi. Nous en profitons pour dire quelque chose là-dessus. Si l'enfant vous complique, vous dites vous-même que l'enfant a été intoxiqué par sa mère a vécu une situation qui n'a pas bien abouti, c'est une mère déçue. Dans le plan qu'elle nourrissait peut-être à côté de vous, les choses n'ont pas marché. Et tout ce qu'elle pouvait avoir comme animosité en votre égard, il l'a déversé sur l'enfant, et l'enfant a grandi avec. Maintenant, la première des choses que je peux vous dire, c'est de patienter. Si vous voulez vite trouver une solution avec cet enfant-là, je crois que vous allez le retourner vers sa mère. Et quand vous le retournez vers sa mère, je ne sais pas ce que vous allez gagner là-dedans. Tout ce que je peux vous demander maintenant, c'est beaucoup de patience. La première des choses, c'est d'exprimer un peu d'affection, un peu plus d'affection pour cet enfant. Est-ce qu'il va à l'école? Est-ce qu'il a des problèmes? S'il vous a trompé, trouvez que c'est naturel, ça peut arriver qu'un enfant trompe. Mais attendez, répétez-lui des principes que vous voulez voir l'enfant intérioriser. Répétez-les-lui régulièrement. Et je crois que, parce qu'il a 18 ans et qu'il est en pleine crise d'adolescence, et il se dit, quelle est l'image que moi j'ai de mes parents? Ma mère est ailleurs, j'ai vécu avec ma mère pendant un temps, maintenant je suis avec mon père. Et je crois que cet enfant se dit, ah, le monde est méchant. Pourquoi est-ce que je ne peux pas vivre avec mes deux parents présents à côté de moi? Donc prenez patience, donnez de l'affection à cet enfant, que l'enfant se rende compte que réellement vous l'aimez. Pardonnez la femme avec qui vous êtes séparés. Je crois que petit à petit, une lumière va s'allumer entre vous et cet enfant. Et je crois que petit à petit, les bonnes relations vont revenir. Et que cet enfant, peut-être vers les 20 ans, vers les 22 ans, il va finir par vous dire, écoutez papa, je vous ai fait du mal à cause de ceci, à cause de cela. Et vous m'avez supporté. Maintenant, je me rends compte que je suis en face de mon père qui m'aime bien. Et je voudrais demander pardon. Je crois que dans ce moment-là, il y a moyen de récupérer. Donner des conseils, c'est bon. Mais patientez, aimez cet enfant. Parlez à son cœur. Dites-lui que tout ce que vous pouvez faire, vous le faites pour son bien. Si maintenant sa mère est partie, peut-être c'est pour des raisons qu'il ne faut pas qu'on vous raconte. Mais considérez que la situation est comme telle. Profitez du fait que vous êtes à mes côtés, que je vous encadre. Je crois que petit à petit, cet enfant, quelque chose va naître dans sa conscience et il va vous écouter et il va se corriger. C'est bon pour vous et pour lui aussi.
Bien. Merci Isidore Bamana, éducateur à la vie, intervenant depuis Mbujimaï dans la province du Kassai-Oriental. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler du dialogue en famille. Merci et à la prochaine.
Oui, merci Jody, au revoir et merci particulièrement à toutes les femmes qui ont appelé au cours de cette émission.